Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 60 ans, le 21 avril 1961, avait lieu le putsch d'Alger, aussi appelé putsch des généraux. Nous sommes en compagnie d'Olivier Dard, professeur d'histoire à la Sorbonne, auteur du livre « Voyage au cœur de l'OAS » publié chez Perrin. Olivier Dard, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, quelle est la situation en Algérie au moment du putsch d'Alger ?
Alors, au moment du putsch d'Alger, la situation en Algérie, est une situation évidemment compliquée, puisque le FLN voit sa situation militaire évidemment progresser. Mais ce qui inquiète beaucoup les militaires, ce n'est pas tant la dimension justement armée du conflit que l'attitude du gouvernement français et la crainte qui est la leur de voir ce gouvernement négocier avec le FLN. Et on sait en mars 1961 qu'un certain nombre de négociations sont déjà annoncées pour le mois d'avril. Et ça, ça les inquiète.
Il y a quatre généraux à la tête du putsch, Salan, Jouot, Challe et Zeller. Quels sont leurs profils ?
Alors, ils ont des profils tout à fait différents. Challe, qui se retrouve à la tête du putsch, a été, sous la 4e République, plutôt un proche de la SFIO.
Et l'ancêtre
du PS. Et rien ne laissait présager son destin futur. Et d'ailleurs, il s'est décidé assez tardivement. Il est en retraite depuis le 1er mars 1961 et on est au putsch quelques semaines plus tard. Les autres sont différents. Jouot est un pied noir. Zeller est un général plus en retrait, mais qui, lui, est davantage marqué par un engagement catholique fort. Et quant à Salan, qui a été l'homme du 13 mai, après avoir été la victime de l'attentat du bazooka, eh bien Salan, lui, est alors exilé en Espagne et, pour le coup, est lié à la naissance de l'OAS au début de 1961.
Qu'on avait vu avec vous au mois de février. Au départ, c'est un seul régiment, le premier régiment étranger de parachutistes, qui prend les points stratégiques d'Alger avec à sa tête le colonel Ailier de Noix de Saint-Marc qui commande cette unité d'élite par intérim.
Oui, alors effectivement, Ailier de Saint-Marc la commande par intérim pour des raisons d'ailleurs tout à fait conjoncturel, parce que effectivement son chef n'est pas sur le moment à Zeralda. Ailier de Saint-Marc va prendre effectivement en main ses débuts du putsch, mais il n'est d'ailleurs pas seul. Je rappellerai que le putsch qui se déroule donc dans la nuit du 21 se déroule sur le plan militaire très bien. Les hommes qui assurent l'affaire sont des professionnels, il n'y a pas d'effusion de sang et ils contrôlent Alger sans la moindre difficulté.
D'autres régiments ont-ils suivi ?
Alors, c'est tout l'enjeu. Depuis, en fait, 1960, un certain nombre de colonels, notamment Argou et Bourassa, sont convaincus de la nécessité d'un putsch. Alors, ils ont cherché un général et puis ils ont cherché aussi à obtenir l'appui d'unité. Et au moment où le putsch se déclenche, évidemment, les putschistes espèrent pouvoir compter sur un certain nombre de ralliements. Très rapidement, les ralliements ne suivent pas et on considère que 1% des unités se sont ralliées, ce qui est évidemment très insuffisant par rapport aux objectifs.
Comment réagit-on à ce putsch en Algérie ? Est-ce que les pieds noirs le soutiennent ?
Alors, oui, très probablement. Alger est à ce moment-là pavoisé, mais il faut comprendre que le putsch, dans l'esprit de ses promoteurs, est d'abord une affaire militaire et qu'il n'envisage en rien d'engager la population civile dans ce processus. De ce point de vue, le putsch d'Alger n'est pas le 13 mai, n'est pas non plus les barricades, et finalement, c'est d'abord une affaire de militaires qui se joue entre militaires. Et tout le problème de Challe va être de constater, dès le 22, que les ralliements attendus n'arrivent pas, et que, par conséquent, ces militaires qui se retrouvent, au fond, sur Alger, sont dans une sorte de nasse.
Est-ce vrai que les régiments qui ont suivi étaient avant tout les régiments professionnels et pas les régiments d'appelés ?
Oui, bien sûr. Les régiments professionnels, et en particulier donc le 1er REP, a été très, très engagé, sachant d'ailleurs que les soldats du 1er REP obéissent à leur chef. Ils leur disent d'y aller, ils y vont. Alors du côté des appelés, effectivement, ça ne suit pas. Et ça suit d'ailleurs d'autant moins que les putschistes, de façon un peu curieuse, n'ont pas brouillé les ondes, que les appelés, comme d'ailleurs leurs collègues officiers supérieurs qu'ils ont pu emprisonner, accèdent à la radio et peuvent par conséquent parfaitement voir et surtout entendre ce qui se joue du côté de Paris, où évidemment la réaction est très vive.
Le 23 à 20h, le général de Gaulle parle en uniforme à la télévision. On écoute le début de son allocution.
Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne, égarée de craintes et de mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite.
Un carteron de généraux en retraite, une formule qui fera florès. Il conclura « Tragique, Française, Français, aidez-moi ». Est-ce que De Gaulle retourne l'opinion publique ce soir-là ?
Oui. Oui, à mon avis, oui. Mais de toute façon, je ne pense pas que l'opinion métropolitaine aurait forcément suivi à ce moment-là Alger. Et c'est d'ailleurs un des vrais problèmes, une des questions qu'on peut se poser à propos de ce putsch, c'est au fond, qu'est-ce que ces dirigeants en attendaient ? Ils pensent, me semble-t-il, pouvoir espérer qu'à travers le putsch, ils feraient pression, en quelque sorte, sur un pouvoir politique, comme ils avaient pu le faire à l'époque de la 4e République, en particulier au moment du 13 mai 58. Sauf qu'il n'y a pas de De Gaulle en rechange, que De Gaulle est au pouvoir et qu'il va d'ailleurs, à la suite du discours dont vous avez diffusé judicieusement un extrait, décider de mettre en œuvre l'article 16 de la Constitution qui donne au président de la République des pouvoirs exceptionnels en temps de crise. Et dans ces conditions, l'opinion publique métropolitaine suit et suit sans réserve le général de Gaulle et le pouvoir en place.
Comment se passe la fin du putsch ? Que deviennent les conjurés ?
Alors, la fin du putsch, elle s'étiole au fur et à mesure. Le 23, Salan est arrivé d'Espagne pour renflouer ce putsch. Il l'avait d'ailleurs soutenu à l'origine. Et disons que le 25, donc on est 4 jours plus tard, Charles fait déjà savoir aux uns et aux autres que, vu la situation, il va pour sa part renoncer. Car il n'est pas question pour Charles de mettre en jeu la population européenne et de continuer donc dans cette perspective. Alors Charles se rend. Zeller, pour sa part, se réfugie dans Alger quelques jours, mais va finir par se rendre. En revanche, Charles et Jouot vont passer dans la clandestinité et se retrouver dans l'OAS, Salan à la tête de l'OAS et Jouot à la tête de l'OAS oranaise.
Alors, est-ce que c'est finalement la dernière bataille des militaires pour l'Algérie française, le putsch d'Alger, puisque les accords d'Évian seront signés 11 mois plus tard.
Alors, ce n'est pas tout à fait la dernière bataille, si on songe qu'un certain nombre de militaires ont rejoint l'OAS. Et que d'ailleurs, des militaires de l'OAS ont tout fait, à travers la propagande, pour rallier à eux un certain nombre de leurs camarades. Sauf que, force est de constater, les militaires attendus dans l'OAS n'ont pas été nombreux et l'OAS d'ailleurs a eu de plus en plus un problème de renouvellement de ses cadres une fois les arrestations opérées, notamment en mars-avril 1962.
Ils seront tous jugés et tous s'échapperont au peloton d'exécution.
Alors,
notamment Salan.
Alors, notamment Salan, alors à la suite d'un procès qui a beaucoup marqué l'opinion publique.
De Gaulle demandait sa tête.
Ah ben, De Gaulle demandait sa tête et Jouot avait été condamné à mort hein, quelques jours plus tôt. Simplement, son avocat, Tixier Vignancourt, très habilement d'ailleurs, a obtenu que Salan se taise pendant son procès. Et Tixier et l'équipe d'avocats ont à la fois mener un procès politique contre De Gaulle, contre le gaullisme, en remettant et en pointant toutes les contradictions, évidemment, d'un certain nombre d'acteurs de cette période, notamment Debré. Mais la dernière phase de la plaidoirie de Tixier, a été d'insister sur le drame moral qui aurait touché Salan, et il a obtenu les circonstances atténuantes, et donc il n'a pas été condamné à mort.
Les militaires seront amnistiés en 1968 et réintégrés dans les cadres de l'armée en 1982. Quelque part, c'est deux choses qui auront rapproché De Gaulle et Mitterrand.
Si l'on veut. Mais on rappellera que Mitterrand était témoin au procès Salan.
Oui.
Il était témoin au procès Salan et qu'avant l'élection de 1981, le problème de la réintégration avait été posé et que Salan, sinon directement, mais du moins par le biais de Garde et d'un certain nombre d'autres, du colonel Garde, avait été en contact avec des émissaires de Mitterrand et que la chose était attendue. Et donc Mitterrand, effectivement, a pu compter sur ses appuis en 1981.
Merci beaucoup Olivier Dard, professeur d'histoire à la Sorbonne, auteur du livre « Voyage au cœur de l'OAS » publié chez Perrin. C'était il y a 60 ans, le 21 avril 1961, le putsch d'Alger. Merci à vous.
Merci.